Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, la première émission d'une série de deux émissions consacrée à la représentation du sexe à l'écran. Et tout d'abord, nous reviendrons sur le cinéma Pink, le Pinku Eiga, à travers l'évocation du coffret Pink Film, 5 Pink Film, très exactement, paru chez Carlotta Film. Ce coffret, il contient les films Une poupée gonflable dans le désert, Prière d'extase, Une famille dévoyée, Deux femmes dans l'enfer du vice et Chansons pour l'enfer d'une femme. Alors nous reviendrons plus en détail donc sur ces films en compagnie de Dimitri Yanni ainsi que sur l'histoire du Pink Film dans cette première émission. Et dans l'émission de la semaine prochaine, nous resterons chez Carlotta. On abordera la chose vue par David Cronenberg et Pier Paolo Pasolini. Mais aujourd'hui, pour ce premier volet de cette représentation du sexe à l'écran, on va partir sur une représentation plutôt originale et méconnue en Occident, qui est la représentation faite par les Japonais à travers le Pinku Eiga du sexe à l'écran. Et donc on est en compagnie de Dimitri Yanni, qui est donc l'auteur de Brève histoire du cinéma érotique japonais en 5 films. Tout de suite, Dimitri Yanni au micro de Culture Prohibée. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, avant d'aborder le coffret édité donc par Carlotta Film, 5 Pink Film, dans la période que nous traversons actuellement, qui est très difficile pour la culture, pour les festivals, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail pour le Festival du cinéma japonais contemporain Kino Taiyo ?
Bah écoutez, volontiers, d'autant que ça tombe bien, puisque le festival a lieu tous les ans fin novembre, à partir de fin novembre, et donc on s'achemine assez doucement vers le début donc de la nouvelle édition, qui est malheureusement, à cause des circonstances actuelles, pas une réelle édition. Donc on a intitulé Kino Taiyo Matsuri en japonais, ça veut dire festival. Donc c'est une forme de festival, mais qui ne sera pas une réelle édition annuelle, tout simplement parce qu'on n'a pas cette année les moyens et les ressources pour présenter une sélection complète, comme on le fait depuis maintenant 15 ans, puisque le festival a été créé en 2006. Et c'est le premier festival de films japonais contemporains présenté à ce jour en France. Il est organisé tous les ans par l'association Kino Taiyo. Et son but, c'est effectivement, dans le cadre d'une réduction de la visibilité du cinéma japonais en France, en tout cas tel qu'on l'a connu, on va dire, dans les années phares des années 90, qui, pour plein de raisons, qui seraient un petit peu longues à développer, ont fait que effectivement le cinéma japonais a eu tendance à un petit peu à se réduire, et aussi qu'on avait tendance à voir un petit peu toujours les mêmes visages, le festival est né de cette volonté justement de promouvoir un cinéma diversifié, contemporain, et de montrer un petit peu la richesse de cette cinématographie qui est quand même aujourd'hui le pays qui produit le plus de films au monde, hein, puisqu'on produit près de 1 millier de films, hein, encore cette année, en tout cas chaque année au Japon, c'est assez... assez impressionnant d'ailleurs, et d'ailleurs là une grande partie des films qui ne trouvent même pas de chemin en salle, mais bon, ça c'est encore un autre aspect. Donc le rôle en fait du festival, c'est tous les ans de composer une sélection à partir d'un certain nombre de films qu'on reçoit. On reçoit à peu près de 180-200 films par an, et à partir de là on fait une sélection qui est composée d'une dizaine de films en général inédits que l'on sous-titre en français, et ça on y tient parce que voilà, c'est vraiment c'est un petit peu l'idée, c'est quelque part de faire en sorte qu'il y ait aussi une possibilité pour ces films de voyager, de les rendre le plus accessibles possible. On a aussi tout un réseau de salles en province qui font une reprise du festival. Et puis le but, c'est aussi voilà éventuellement que des distributeurs se positionnent et puis se mettent à les distribuer. Quand il y a déjà le matériel disponible, ça facilite toujours beaucoup les choses. Donc mon rôle, à moi, il est tout simple. Enfin, il est simple et en même temps, il est ardu, c'est de coordonner et de superviser le comité de sélection. Voilà. Parce qu'on travaille en comité, il n'y a pas un directeur artistique qui fait les choix, mais on communique tous ensemble. Et puis c'est aussi ça, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi... partager, discuter, offrir des points de vue différents, les confronter pour arriver finalement après à faire une sélection la plus diversifiée, la plus harmonieuse, la plus cohérente possible. Donc voilà en quelques mots ce dont je m'occupe pour le festival.
Et donc, vous êtes tombé dans la marmite du cinéma japonais tout petit, parce que ça vous vient d'où cette grande passion pour le cinéma japonais en particulier? Parce que là, je suppose que en vous consacrant à la sélection de films pour ce festival, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps pour voir du cinéma autre que du cinéma japonais. Ça doit quand même être très chronophage tout ça.
Oui, vous n'avez pas tort. Effectivement, vous n'avez pas tort. C'est vrai que je vois. Je vois beaucoup moins, effectivement, de cinématographie d'autres pays. C'est toujours un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous spécialisez, ou alors vous restez un généraliste de tout, quoi. Donc j'ai fait le choix de cette spécialisation, c'est-à-dire de circonscrire un champ et puis d'essayer de l'approfondir, tout en, évidemment, ne négligeant pas non plus les grands pans du cinéma mondial, parce qu'une cinématographie, ça s'inscrit aussi dans un contexte d'un cinéma mondial, d'autant plus que de plus en plus plus un cinéma est mondialisé, plus il se nourrit aussi d'autres cinémas, et donc le cinéma japonais n'y fait pas exception, se nourrit aussi de cinéma contemporain européen, américain, etc. Mais c'est vrai que sur le cinéma japonais, j'y passe énormément de temps. C'est un peu long et peut-être un peu fastidieux de retracer cette passion, d'autant que je suis plutôt jeune. Je suis né en 1970, donc ça donne un petit peu une idée. On va dire que moi, c'est venu en même temps d'une passion pour le cinéma de manière un peu générale. Et étant de cette génération des vidéoclubs et de la VHS, j'ai beaucoup consommé de cinéma, beaucoup de cinéma américain, de cinéma de genre. Donc j'ai une cinéphilie comme ça assez portée sur le genre, sur le cinéma américain principalement, mais progressivement je me suis ouvert, je me suis nourri d'autres cinémas. Et puis le Japon, c'était un peu une circonstance, c'est qu'au début de ma carrière j'ai commencé à travailler dans une société japonaise, alors rien à voir avec le cinéma parce que j'ai fait des études de commerce, mais c'est une société japonaise qui commercialisait des cartes de crédit pour des clients japonais qui venaient en France. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus parce que je me suis rendu compte que le mode de management japonais était très différent du mode de management français, que la culture d'entreprise était très différente. Et donc, avoir quelques clés aussi culturelles m'a permis de mieux comprendre la manière dont parfois les Japonais se comportaient en société, la manière dont se prenaient les décisions, etc. Donc je me suis carrément complètement intéressé à la culture japonaise. J'ai commencé à lire, l'un des premiers livres que j'ai lu, ça a été Le Chrysanthème et le Sabre, qui est une espèce de classique, un peu intemporel, par lequel on passe souvent pour avoir accès à quelques un peu grandes, grandes bases. Alors après, comme ça, j'ai commencé à lire beaucoup autour du Japon, de la sociologie aussi, de la littérature.
Écoutez Dimitri Yanni au micro de Culture Prohibée.
Le cinéma japonais, c'est venu, je pense que c'est venu aussi à ce moment-là assez naturellement, parce qu'on était dans une période, milieu des années 90, où en fait le cinéma a connu une renaissance, une véritable renaissance. Il y a eu ces deux grandes époques, on va dire la nouvelle vague, nouvelle vague avec les Oshima, les Yoshida, etc., qui ont vraiment succédé à l'âge d'or du cinéma. Et puis entre les deux, entre les années 70-80, une espèce de gouffre là où il y a un peu où le cinéma japonais se fait rare. Et puis le retour avec la nouvelle vague, la nouvelle vague des années 90. Donc c'est l'année en fait du renouveau, c'est l'année 97. Hein, c'est l'année où Langui obtient la Palme d'Or, c'est l'année où Naomi Kawase est la plus jeune récipiendaire de la caméra d'or avec, Sharaku. C'est l'année où Hanabi obtient le Lion d'or à Venise. C'est l'année où Kiyoshi Kurosawa est découvert à l'international, au Festival du film international de Tokyo avec Cure. Enfin bref, c'est vraiment un marqueur de ce renouveau. Et puis ça correspond en France à l'ouverture de la Maison de la Culture et du Japon, à une fameuse rétrospective de 200 films à Pompidou, dont beaucoup des gens qui se nourrissaient ou qui étaient intéressés par le cinéma japonais à l'époque se souviennent encore, parce que c'était un peu historique, on n'avait jamais vu ça. Il y avait eu la publication aussi parallèlement de deux ouvrages, Tadao Sato, un critique qui est très connu au Japon et qui a permis comme ça de poser un peu des bases sur l'historiographie du cinéma japonais. Donc c'est vraiment né là. Et puis comment ça s'est concrétisé, tout simplement parce que moi effectivement, comme je le disais, je viens pas du tout ni des études de cinéma universitaires ou même concrètes d'école de cinéma, mais tout simplement l'envie d'écrire est venue à partir du moment où au début des années 2000 sont apparus les premiers blogs consacrés au cinéma asiatique en France, et j'ai contribué notamment à l'un de ces sites, l'une de ces revues électroniques qui s'appelle Sancho dos Asia, dans laquelle j'ai fait mes premiers pas dans l'écriture. j'aurais, j'avoue, un petit peu honte de me relire aujourd'hui, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et puis de fil en aiguille, on m'a appelé pour présenter des films dans des festivals, lors de séances, et comme ça, de fil en aiguille, j'ai pu avoir des opportunités jusqu'à ce que, il y a à peu près 5-6 ans, j'ai été invité à rejoindre le comité par l'intermédiaire de Jean-Pierre Limosin, qui est un cinéaste français que les japanophones, les amateurs de japonais connaissent très bien, puisqu'il a filmé notamment Kitano dans Tokyo Eyes, et qui était à l'époque directeur artistique, enfin qui est toujours membre de l'association, mais qui par ses nombreuses activités avait un peu moins le temps de s'occuper du comité, et auquel j'ai succédé modestement dans le comité. Voilà, donc pour faire un petit peu un résumé de cet intérêt pour le cinéma japonais, et puis de comment il s'est concrétisé avec le festival.
Et donc, de fil en aiguille, vous en êtes arrivé à écrire, cet ouvrage. Donc, Brève histoire du cinéma érotique japonais en 5 films qui accompagne le coffret 5 Pink Films. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est le Pink Film ou Pinku Eiga ?
Alors oui, d'autant qu'on fait souvent la confusion. Hein. Même des gens qui sont très spécialistes en France font souvent la confusion, par exemple, entre Pink et roman porno, qui est un label de la Mikatsu, on pourra y revenir, ou entre Pink et, je ne sais pas, par exemple, AV, qui au Japon désigne les vidéos pour adultes. Donc, le Pink, en fait, c'est-à-dire que c'est au-delà du genre, donc au-delà du fait qu'il s'agisse de cinéma érotique, ça se définit vraiment par ses conditions de production. Donc le cinéma japonais est vraiment un cinéma d'autant plus durant l'âge d'or qui est dominé par les grandes compagnies de cinéma qui ont un quasi monopole un peu sur le modèle des studios hollywoodiens mais tel que l'était l'âge d'or d'Hollywood c'est-à-dire dans les années 30-40 où en fait les studios possèdent le circuit de distribution mais aussi tout un réseau de salles donc c'est vraiment on est dans une période où, fin des années 50, où le cinéma japonais était à son âge d'or et où les studios dominent. Or, la particularité du cinéma Pink, c'est qu'il est produit exclusivement par des sociétés indépendantes, donc qui opèrent en dehors des major companies. Et puis, c'est un cinéma qui est, ça on pourra y revenir dans le contexte de sa naissance, à très 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 petit budget. En fait, c'est le budget le plus bas de l'industrie. Voilà. En dessous, ça n'existe pas. Donc, on a d'ailleurs appelé les films Pink les films à 3 millions de yens à l'époque, parce que ça désignait le budget moyen. Donc, 3 millions de yens à l'époque, j'avais essayé de faire le calcul pour actualiser ça. Je crois qu'on serait autour de 20-25 000 euros aujourd'hui, quoi, un truc comme ça, ce qui donne une idée un petit peu de l'économie de ces films-là. C'est des films d'une durée moyenne aussi d'une soixantaine de minutes. Tourné en 35 mm, ça c'est très important, parce que en fait, ce qu'on sait peu, c'est qu'on tournait encore des Pink Films, il n'y a pas si longtemps que ça, en 35, donc ça a permis aussi de perdurer, enfin, à la pellicule de perdurer d'une certaine manière, avec des temps de tournage très très courts, on parle de 3 à 5 jours, sans son direct aussi, ça c'est important, parce qu'à l'époque, le son synchrone était un petit peu un standard, c'était... En tout cas, à l'époque où le Pink Eiga est apparu, au début des années 60. Et puis, évidemment, qui comporte, ça c'est la figure imposée, un certain nombre de scènes de sexe. Évidemment, c'est pas fixe, mais on va dire, une scène toutes les 10 minutes, par exemple, pour donner une idée. Et qui sont évidemment toutes simulées. Parce que on reste dans le cinéma, c'est du cinéma érotique. Voilà. Donc pour le définir, c'est, on va dire, le cinéma érotique japonais produit par les compagnies indépendantes à très bas coût. Yoake, umitsubame, tobinaku, hino kagayaki ga, totemo, kanashikute.
Donc
ほてった頬には持ってこいの。いてついたアスファルトの寝床。破れた旗を作ろう。銀の針はいらない。俺は暗闇で爪を研ぐ。ここは俺たちの戦場。ここは静かな最前線。
Écoutez Culture Prohibée. Dans ce coffret, il y a cinq films, donc cinq Pink films. C'est même le titre du coffret édité par Carlotta Film. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces cinq films ?
Oui, bien sûr. Ben, on va faire une présentation chronologique hein, en fonction de leur date de production, avec le premier qui s'appelle Une poupée gonflable dans le désert et qui est donc réalisé par Atsushi Yamatoya, hein, qui est connu pour ses talents de réalisateur, notamment aux côtés de Seijun Suzuki, puisqu'il a participé au scénario notamment de La Marque du Tueur, mais aussi pour des séries d'animation, par exemple Edgar de la Cambriole, qu'on connaît bien ici en France. Donc c'est un scénariste important du cinéma japonais, et qui a travaillé sur des projets très différents, mais qui a aussi une activité de réalisateur. Voilà, il a tourné quatre films, et dont Une poupée gonflable dans le désert, qui est un petit peu son film, un petit peu l'un de ses sommets, et qui est au Japon considéré comme un film culte. Alors c'est un film qui est une espèce de synthèse un petit peu de toutes les inspirations du réalisateur. C'est un film qui à la fois essaye de casser toutes les traditionnelles frontières du cinéma et de sa grammaire. C'est à la fois un film de genre, donc un film divertissant, où il y a beaucoup d'action. C'est aussi un film documentaire, dans le sens où voilà, il y a une approche dans la manière de filmer, dans la manière de représenter, qui est très documentaire. Il utilise des techniques aussi de mise en scène, très documentaire, des photos, des images fixes, des plans volés dans la rue, dans des décors naturels. Et puis c'est aussi un film expérimental, complètement expérimental, qui notamment s'inspire beaucoup de Matsumoto Toshio. Hein, c'était un des réalisateurs phares du cinéma expérimental d'après-guerre et dont Yamatoya était un des disciples. Hein, donc voilà. Donc c'est une espèce de film qui représente aussi un petit peu ce que le Pink a été vers la fin des années 70, c'est-à-dire que une certaine partie de ses productions se sont confondues avec l'avant-garde. Voilà, et ça, c'est en ça que ce film échappe complètement aux typologies du genre même. C'est pas du tout finalement un film de genre, mais c'est plutôt voilà un film conceptuel et assez abstrait, mais qui est à replacer voilà dans le contexte du cinéma de l'époque et du cinéma expérimental et avant-gardiste de l'époque. Voilà. Ensuite, on aura donc dans l'ordre de leur production Deux femmes dans l'enfer du vice, donc qui est un film de 1970 réalisé par Mukai Kan. Alors là, on est carrément à l'opposé du spectre, puisqu'on est peut-être dans le film de la série qui est le plus en rapport avec en fait ce qu'est le cinéma Pink à la base, c'est-à-dire un cinéma qui va vendre ou quelque part promouvoir son objet premier, qui est l'érotisme et la stimulation de son spectateur masculin. C'est parmi les cinq films celui qui a un rapport le plus direct à l'érotisme, notamment dans la manière dont il filme les corps, dont il étend, dont il utilise aussi le désir, tout est quelque part. C'est vraiment là, on est plus dans le caractère un petit peu stéréotypé, formulé du film de genre du Pinku Eiga, quoi, avec la jeune héroïne qui finalement se libère de l'ancienne morale pour faire commerce de ses charmes et finalement arriver, quoi. Mukai Kan, qui était un des pionniers du cinéma pink, hein, aux côtés de Wakamatsu Koji, par exemple, était vraiment, lui, dans une espèce de ses préoccupations, c'était beaucoup, en fait, le côté arriviste, c'est-à-dire comment, voilà, la société moderne, le libéralisme libertaire, finalement, faisait que la sexualité, que le sexe se commercialisait. Enfin, on a vraiment cette trajectoire de l'héroïne, hein, qui est une espèce de Rastignac au féminin et qui arrive grâce à ses charmes, finalement, à ses fins. C'est aussi un des premiers films pink tournés entièrement en couleur. Il faut savoir qu'à l'époque, les films étaient tournés en ce qu'on appelle le procédé part color, c'est-à-dire pour des raisons économiques. On tournait le film en noir et blanc et les scènes de sexe en couleur. Donc celui-là est entièrement en couleur. C'est aussi un film qui un petit peu au cœur de son temps, dans le sens où il montre les lieux à la mode, les go-go bars, toutes ces choses. Il anticipe un petit peu certaines séries, comme la série des Stray Cat Crocs, où on voit cette espèce de jeunesse un petit peu rebelle qui commence à s'émanciper dans la mode aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très attentif à son temps et au mode de son temps. Donc c'est un film qui est un petit peu aussi représentatif de la culture de son temps, vraiment au virage de 68, quoi. Ensuite, donc il y a Chanson pour l'enfer d'une femme, réalisé par Mamoru Watanabe, qui est un autre cinéaste emblématique du cinéma pink, de cette première génération, hein, de cinéastes pink, comme Hiroshi Mukai. Et alors là, on est encore dans un autre projet de cinéma, puisqu'on est dans le cinéma de genre, et plus particulièrement le Jidaigeki, donc le film en costume, qui est aussi quelque chose qui est assez peu fréquent, puisque le cinéma pink était en tournée avec très très peu de moyens. Il n'avait en général pas accès à des décors ou encore moins des costumes pour se permettre justement de filmer des reconstitutions historiques. Donc là, Mamoru Watanabe, qui est plutôt un cinéaste du Pinku Eiga, mais un cinéaste cinéphile, qui se réfère beaucoup à l'histoire de cinéma, s'inspire d'une série très connue qui s'appelle La Pivoine Rouge, lancée par le studio Toei à la fin des années 60, et fait une sorte d'adaptation de la Pivoine Rouge dans l'univers du Pinku avec ce film. Alors ce film est aussi très original dans la mesure où il est scénarisé, là encore, par Atsushi Yamatoya, qui travaille sous un pseudonyme. Et ce que va apporter justement Yamatoya dans ce film, c'est toute la partie un petit peu fantasmagorique et quelque part ce réalisme magique dû à la particularité des tatouages qui ornent le dos des héros principaux, donc de Benten, l'héroïne, et puis de son sauveur. Donc ces tatouages ont une sorte d'autonomie et vont s'attirer mutuellement. Voilà, les énergies sexuelles vont s'attirer par-delà les volontés. Et ça va créer finalement un film complètement étonnant, d'une beauté plastique extraordinaire pour un film pink de l'époque. Hein, parce qu'il faut voir, c'est tourné aussi en très peu de temps. Et qui va donc dépasser un petit peu son modèle, on va dire, dans son réalisme, pour arriver à voilà, un film assez étonnant et assez proche finalement par certains côtés du cinéma fantastique.
Coco wa shizukana saizensen. Coco wa shizukana saizensen. Naze nara ここには俺の墓がない。ここには俺の安らぎがない。
Vous écoutez Dimitri Yanni, auteur de brèves histoires de cinéma érotique japonais en 5 films, livre accompagnant le coffret 5 Pink Films disponible chez Carlotta Film, au micro de Culture Prohibée.
Ensuite, le quatrième film de cette série s'appelle « Prière d'extase ». Et là, pour le coup, un film de Masao Adachi, qui lui est un réalisateur qui vient des productions de Koji Wakamatsu. Donc pour le coup, un vrai cinéaste engagé politiquement et on pourrait dire un activiste de la Révolution, qui là, pour le coup, se préoccupe moins de cinéma que d'idéologie, même si le film a des qualités esthétiques indéniables, mais il est avant tout quelqu'un qui réfléchit vraiment à son temps et avec un parti pris vraiment radical. On pourrait dire que là, il porte un regard en fait sur la société japonaise contemporaine. Après la fin des idéaux 68ards, donc l'échec de ces idéaux-là, et qu'il filme finalement le désenchantement de cette jeunesse qui n'arrive pas à s'émanciper, y compris dans le projet révolutionnaire, et y compris de la tutelle, voilà, de la société traditionnelle, hein, de représentée notamment par le professeur là dans le film. Le professeur d'université d'un côté et le groupe révolutionnaire de l'autre. Et elle se retrouve voilà, face aux contradictions de sa société, et ce qui donne un film peut-être l'un des plus désespérés du cinéma de Masao Adachi. Je ne vais pas révéler la fin, mais voilà, les spectateurs pourront le constater de visu, qui d'ailleurs va quitter le Japon à ce moment-là pour rejoindre l'armée rouge dans son projet révolutionnaire de soutien à la cause palestinienne dans les années 70, et qui voilà, aura donc non pas une vie de cinéaste, mais une vie d'activiste, et deviendra une vraie figure historique. Voilà. Ensuite, le dernier film de la série, qui va clôturer ce coffret, là on va faire un saut temporel puisqu'on va se retrouver dans les années 80, dans le postmodernisme on pourrait dire, de Une famille dévoyée par donc le réalisateur Masayuki Suo. Alors pour bien comprendre Une famille dévoyée, il faut malheureusement prendre le temps, je dirais, d'introduire le cinéaste et d'où il vient. Puisque en fait Masayuki Suo est le premier disciple de Shigeiko Hazumi, le second étant Kiyoshi Kurosawa, hein, qui était son cadet à l'université Rikyo, où enseignait Shigeiko Hazumi. Donc Hazumi a une importance considérable au Japon, puisqu'il a complètement transformé la réception du cinéma japonais au Japon, et notamment il est l'auteur d'un essai très important, aux éditions, qui a été traduit aux éditions Cahiers du cinéma, qui s'appelle Yasujiro Ozu. Donc c'est un essai qui un peu remet Ozu au centre du cinéma japonais et renverse complètement les interprétations faites jusqu'alors sur Ozu. Et on va dire que voilà, Masayuki Suo hérite de cette lecture critique d'Ozu et la transpose littéralement dans le film. Donc c'est presque un travail d'agiographie ou le travail du brillant élève Masayuki Suo dans sa lecture d'Ozu. Donc en fait, ce que je conseille aux spectateurs du film. Vraiment, hein, si vous êtes un spectateur cinéphile et que vous voulez vraiment vous engager à fond dans la démarche de Masayuki Suho, c'est de lire ou de relire, si vous l'avez déjà lu, l'ouvrage donc, de Shigeiko Azumi, paru aux éditions Cahiers du cinéma sur Ozu, et d'ensuite de voir le film de Masayuki Suho. Et là, on voit vraiment à quel point il a digéré la lecture, notamment de l'histoire, enfin du cinéma de Ozu, à travers le filtre le filtre critique de Shigeiko Azumi. Donc c'est à la fois un film pink, c'est une hérésie complète hein, dans l'histoire du cinéma japonais. Je connais aucun film pareil. Et en même temps, une lecture critique, une relecture critique de tout le cinéma de Ozu. Et d'ailleurs, Masayuki Suho poursuivra un petit peu ce travail dans ses films suivants, jusqu'à notamment Shall We Dance, voilà, où il y a encore la trace quelque part de cette lecture critique d'Ozu, notamment dans la mise en scène particulière et caractéristique de Masayuki Suho.
Dans votre ouvrage, vous écrivez que le Pinkueiga, c'est l'un des phénomènes majeurs de l'histoire du cinéma japonais d'après-guerre. Oui. Alors en quoi, parce que vous venez de le dire, c'est toute petite production en termes de budget, hein, elles oui. peuvent compter à ce point dans l'histoire du 7e art.
Ben oui, c'est ça qui est parfois pas méconnu du fait de l'absence de connaissances finalement du contexte de production de ces films. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas finalement tant d'informations que ça. D'autant que dans les histoires officielles, je parlais de l'histoire de Tadao Sato, on parle quasiment pas de Pinkueiga, donc c'est un peu, on va dire, un peu mis sous le tapis, hein, comme si on avait un petit peu honte de sa propre histoire. Hein. C'est comme l'histoire des Shunga, hein, vous savez, les estampes érotiques du Japon. C'est les choses qu'on met un peu sous le tapis. Je crois que les Japonais ont, c'est dû à des tas de causes, notamment la modernisation, hein, cette espèce de pudeur et de honte vis-à-vis de l'étranger, de cette de cette histoire un petit peu parallèle. Donc le Pinkueiga, c'est on peut voir les choses de deux façons. On peut dire que c'est le genre qui a sauvé le cinéma japonais, et en même temps on peut dire que c'est le genre qui marque la fin du cinéma japonais. Donc ça dépend un petit peu de la manière dont on regarde l'histoire et dont on se positionne.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial sexe à l'écran.
Alors pourquoi ça a effectivement quelque part contribué à sauver le cinéma japonais et que c'est le genre le plus important d'après-guerre, en tout cas en termes de quantité de films produits. Si on se replace dans le contexte de la fin des années 50, donc le point culminant du cinéma japonais, c'est l'année 58, c'est l'année où le taux de fréquentation des salles est à son plus haut, hein. On est à 1,1 milliard et des poussières de spectateurs. Donc là, le cinéma japonais est complètement contrôlé par les six studios, hein, les Big Six, comme on pourrait dire, par rapport au Big Eight hollywoodien. Donc Nikkatsu, Shochiku, Toho, Daiei, Shinto et Toei dans leur ordre de fondation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cinéma indépendant. C'est-à-dire que concrètement, en 59, je crois qu'il y a... Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a 1%. On les compte sur les doigts d'une main, le nombre de films indépendants. Donc ça dit bien ce monopole, et ça dit bien aussi, quelque part, cette sclérose. Cette sclérose dont notamment les fers de lance de la nouvelle vague, Oshima en tête, se plaignaient. Hein, ils se plaignaient de cette espèce de sclérose due à ce qu'on appelait les program pictures, hein, le terme utilisé au Japon pour ces films de série, c'est-à-dire des films construits sur, en général, des stars, avec des motifs récurrents, même des structures, de scénarios, enfin, voilà, on parle des films de Yujiro Ishihara, des films de Akira Kobayashi, par exemple, la série Watari Dori, donc des films de série qui constituent un petit peu les piliers du système des studios, les poules aux œufs d'or. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ces films-là si Mizoguchi peut faire son film. Il y a tout le loisir, le budget et le temps. C'est parce que derrière, les studios produisent 100 films par an, sortent 2 films par semaine et que la machine, elle est rentable, en gros. Hein. Sinon, il n'y aurait pas. Il ne faut pas se leurrer, il n'y aurait pas de Mizoguchi, il n'y aurait pas de Ozu, il n'y aurait pas de Naruse. Pour un chef-d'œuvre, eh ben forcément, vous avez à côté 100 ou 50 ou 100 films qui supportent un peu la structure et le système. Donc, ce qui se passe, c'est que l'année d'après, il y a une baisse dans la fréquentation en 59. Et c'est les premiers craquements, la première crise qui est due en partie à l'arrivée de la télévision, hein, qui a complètement bouleversé l'industrie. Alors pas uniquement, parce qu'il y a aussi d'autres loisirs, mais jusqu'à présent, le cinéma était un peu le loisir numéro un, le loisir premier. Mais la télévision, grâce notamment à la retransmission d'événements directs, à l'époque en 59, il y avait le mariage du futur empereur Akihito, l'apparition de nouvelles activités de loisirs, comme par exemple le bowling, etc. Donc la société de consommation en marche fait qu'il y a une transformation sociale et culturelle dans la consommation des loisirs et du divertissement, et que le cinéma va perdre progressivement un nombre conséquent de spectateurs. Mais les studios produisent toujours autant. Donc il y a une crise un peu, ce qu'on pourrait dire, une crise de surproduction aussi. Et alors comment ça se passe en fait la naissance du cinéma pink? En fait, il y a un premier séisme en 61, c'est la faillite de Shinto. Donc Shinto, c'est vraiment la plus petite des six majors. C'est celle qui avait le réseau de distribution le plus faible, le plus fragile, le moins de nombre de salles, parce que la Shinto était née plus tard. Un peu comme une succursale au début de la tour. Donc cette société, c'est la plus fragile, donc forcément la plus soumise aux aléas économiques de l'industrie. Et donc quand elle fait faillite en 61, là déjà il y a une forme de coup de semonce, et puis ça veut dire qu'il y a tout un pan de la production qui tombe, et du coup il y a des salles qui sont en demande de produits. Et ce qui va se passer, c'est que le patron en fait de la Shinto de l'époque, certain Mitsugi Okura, qui est très important parce que c'est vraiment, on peut dire, le pionnier industriel du genre du pink, va créer une structure parallèle de production avec une structure de distribution. C'est quelqu'un qui aussi c'est un ancien Benchi, mais qui avait monté aussi, qui s'était constitué un réseau de salles, donc il y avait justement déjà une sorte de petit empire un petit peu parallèle au studio, donc quand il va remonter un peu cette structure de production, va se mettre à produire plutôt de l'érotisme. Pourquoi ? Parce que aussi à l'époque, en fait, Okura, donc dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il avait pris la direction de la Shinto au milieu des années 50, avait en fait changé complètement la stratégie du studio qui reposait beaucoup sur des grands noms du cinéma. Il y avait à l'époque, il y avait Naruse, il y avait Inosuke Gosho, plutôt des noms avec un label de qualité qui produisait les films à la Shinto, et puis ils avaient des problèmes, donc ils se sont lancés vraiment dans la production de série B à petit budget. Et la racine, on va dire, la racine du Pinku, en fait, vient de l'un de ces sous-genres qui étaient notamment les séries de femmes plongeuses, donc les Hama, donc au Japon, c'est quelque chose qui existe, en fait, il y a des femmes, c'est surtout des femmes qui sont plongeuses pour récupérer des huîtres et notamment les perles qui sont très très prisées. En fait, ça permettait quelque part, enfin c'était une caution un petit peu facile pour montrer des corps, hein, voilà, pour un petit peu augmenter, on va dire, l'érotisme et puis le dévoilement, le corps qui commençait un petit peu à vouloir s'exprimer, à s'épanouir. Et donc il y avait dans ces séries les premières scènes de nues dorsales, hein, parce que en fait même jusqu'au début des années 60, même jusqu'au milieu des années 60, c'est compliqué, pour dire la censure, de montrer des seins nus, quoi, c'est un téton, hein. Enfin c'est assez assez incroyable, mais c'est vrai, quoi, jusqu'au milieu des années 60, ça donne, c'était assez compliqué. Donc en fait, Okura avait déjà lancé cette série, et lorsqu'il a repris ses activités de production, il a fondé Okura Eiga l'année suivante, 62, les films Okura, et il a produit un film qui s'appelle Le marché de la chair, 1962, réalisé par Satoru Kobayashi, qui est un ancien la Shinto, donc il s'est retrouvé sans travail, et qui est considéré aujourd'hui dans l'histoire comme le premier film pink. Alors à l'époque, il n'y avait pas de label, on ne savait pas ce qu'était un film pink, en fait. C'est simplement un film qui était un petit peu plus érotique, un petit peu plus aussi violent que la moyenne, et qui a fait un petit peu scandale aussi, pour plusieurs raisons, et qui a été un peu rétroactivement considéré comme le premier film pink de l'histoire, du cinéma pink. Et donc c'est des films qui ont progressivement trouvé leur espace, parce que comme les majors avaient un manque au niveau comme ils produisaient moins, les majors se sont mis à réduire leur production. En fait, les salles, les exploitants, eux, étaient toujours en demande et se sont retrouvés finalement avec des films pink qui étaient beaucoup moins chers en termes de location, parce que c'est produit par des sociétés indépendantes. Donc finalement, ça permettait des recettes et une marge plus importante pour les exploitants. Donc c'est surtout les cinémas de province, hein, les petits cinémas de seconde, troisième, voire plus, exclusivité, hein, donc il n'y avait pas les moyens de se payer les films des majors en première exclue, qui étaient surtout pour les grands centres-villes, les salles des grands centres, hein, mais comme en France à une époque, hein, on avait, aujourd'hui avec le numérique on n'a plus ça, mais on avait des fois les films américains qui sortaient, un mois, voire plus après en province, hein, donc c'est le même phénomène. Donc c'est souvent ces petites salles qui ont commencé à faire rentrer ces films-là. Et puis, progressivement, ce cinéma-là a pris de plus en plus d'importance.
Écoutez Dimitri Yanni, auteur de Brève histoire du cinéma érotique japonais en 5 films, livre accompagnant le coffret 5 Pink Films disponible chez Carlotta Film, au micro de Culture Prohibée.
Pourquoi pourquoi aussi ce cinéma a servi de, un petit peu de sous-basement à l'industrie à venir du cinéma japonais. C'est parce que, en fait, aussi, le cinéma pink a changé toute une manière de faire et de produire du cinéma. Alors, pas forcément bien, diraient certains, parce que, bah, effectivement, dans le cinéma pink, on va dire, toutes les règles de hiérarchie étaient quelque part abolies. Avant, pour devenir réalisateur, par exemple, dans les années 50, il fallait avoir fait les plus grandes universités. Hein. Si vous regardez les réalisateurs qui étaient embauchés à l'époque, ils avaient fait soit l'université de Tokyo, soit l'université de Kyoto ou Azeda. Donc, les concours étaient très sélectifs. Or, dans le cinéma pink, c'était pas du tout le cas. On avait, bah, par exemple, l'image de Koji Wakamatsu, qui était quand même un ancien voyou, un yakuza qui avait fait de la prison. Donc, ça a changé complètement, ça a bouleversé complètement les règles à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que on n'avait pas besoin de suivre la voie royale, qui était de faire 10 ans d'assistanat depuis quatrième assistant jusqu'à premier assistant pour devenir réalisateur au bout de parfois de plus de 10 ans. Donc c'était une voie qui était beaucoup, beaucoup plus directe. On pouvait devenir réalisateur en 2-3 ans, par exemple. Voilà. Donc ça a changé complètement la donne. Alors, je disais pas forcément bien parce que effectivement, dans les petites productions pink, qui étaient souvent centrées autour d'un réalisateur-producteur, hein, l'image de Koji Wakamatsu qu'on connaît un petit peu plus en France, et ben forcément, il n'y avait pas de convention collective. Hein, c'était les réalisateurs étaient parfois, ou les scénaristes étaient parfois payés de la main à la main. Donc il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas du tout le salariat, il n'y avait pas la même sécurité. Donc ça a aussi fragilisé quelque part. Le métier même, mais ça a permis une liberté parce que justement peu de moyens, et puis ça a permis de former énormément de cinéastes qui vont progressivement sortir aussi du pink, parce que le pink c'est une histoire, c'est plus que 50 ans d'histoire. Donc au début, il se faisait dans la clandestinité, dans l'underground, comme on disait à l'époque au Japon, hein, jusqu'au milieu la fin des années 60, on va dire. Et puis, progressivement, le pink s'est institutionnalisé. C'est devenu, à partir des années 70, comme les studios à cette époque-là ont arrêté d'embaucher des réalisateurs, des assistants réalisateurs, un moyen de se former et un moyen d'apprendre à faire du cinéma. Et puis, par la suite, ces mêmes réalisateurs, ils ont fait le saut, c'est-à-dire ils sont rentrés dans le cinéma commercial traditionnel. L'exemple type, c'est Kiyoshi Kurosawa, par exemple, qui a fait ses premiers films commerciaux, donc ses premiers films professionnels. Je ne parle pas des films d'étudiants qu'il a fait quand il était encore à l'université, mais de ses productions commerciales, comme Kandagawa Wars ou l'autre là qu'il a fait, qui était destiné à être distribué en tant que roman porno avec la Nikatsu, ma mémoire me fait défaut, mais Doremisa Girl par exemple, donc c'était des productions érotiques. Et après ces films-là, il a commencé justement à réaliser d'autres films, on va dire, dans le cinéma traditionnel, donc non pour adultes, on va dire. Voilà. Donc il y a beaucoup de ces cinéastes qui viennent du cinéma pink. Et d'ailleurs, on ne le sait même pas. C'est-à-dire que qui sait aujourd'hui que, par exemple, quelqu'un comme Nobuhiro Suwa, qui est une espèce de figure un peu pour les cinéphiles ou la cinéphilie parisienne, française ou autre, sait que Nobuhiro Suwa était assistant réalisateur dans le cinéma pink. Voilà. Donc en fait, il y a toute une génération, on peut dire presque un ouzou du cinéma japonais, qui a acquis de l'expérience. Alors, pas forcément réaliser des films, mais a acquis de l'expérience dans le milieu du pink. Voilà. C'est le cas de Kiyoshi Kurosawa, c'est aussi le cas d'un réalisateur comme Masahiro Kobayashi, dont les films, on les trouvait souvent dans les grands festivals, à Cannes ou à Venise. C'est le réalisateur de Bashing. C'est le cas de Masayuki Suo, un cinéaste aussi très, très important du cinéma japonais contemporain, qui avait eu un grand succès commercial et international avec Shall We Dance, par exemple. C'est le cas de Yojiro Takita, qui a été, dont le film Departures est sorti aussi en France, mais a été sélectionné pour le prix de l'Oscar du film étranger. Il y a un nombre de cinéastes vraiment très très conséquents qui est passé par le cinéma Pink, un petit peu comme un centre de formation, voilà, à une époque où il n'y avait pas d'école de cinéma et où il n'y avait pas non plus de studio pour former les réalisateurs. Voilà. Donc voilà aussi toute l'importance de ce cinéma comme un peu sous-basement du cinéma japonais au moment où le délitement des studios commence au début des années 60 et ne s'est plus interrompu depuis jusqu'à sa disparition réelle en fait dans les années 80 voilà. Les 80 c'est fini quoi, le système des studios a disparu.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec le concours de Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne pour une petite aide à la technique. And the last but not the least, je vais bien sûr parler du vrai chef de la technique, de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.
Oh, no, ここは静かな最前線。